J'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est l'un des grands événements musicaux de l'année en France, l'ouverture de la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Et le programme de ce week-end d'ouverture allie qualité, prestige et diversité. Bob Dylan vendredi, samedi The Avener et The Shoes, mais aussi notre invitée, la chef d'orchestre Laurence Equilbé, créatrice du Chœur Accentus et de l'Insula Orchestra, qui sera d'ailleurs en résidence dans ce nouveau lieu francilien dédié à la musique. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Laurence Equilbé, le Chœur Accentus et l'Insula Orchestra nous offre en même temps un enregistrement de deux œuvres de Mozart, la messe du couronnement et les vêpres solennelles d'un confesseur. L'album sort samedi chez Erato et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Laurence Equilbé.
Bonjour.
C'est vraiment une semaine de première pour vous, hein, parce que sauf erreur de ma part, c'est votre premier enregistrement sous le label Erato.
Absolument, oui. On a plusieurs projets maintenant chez Erato, qui est Warner Classics. Et voilà, effectivement, c'est le premier album.
Pourquoi avez-vous choisi Mozart ?
Écoutez, en fait, Mozart est au cœur du répertoire d'Insula Orchestra, qui est un orchestre, donc, j'explique pour les auditeurs, sur instruments d'époque,
oui. Et
qui se consacre beaucoup au style classique et pré-romantique, c'est-à-dire Haydn, Mozart, Schubert, et Weber, Beethoven, voilà, les premiers romantiques. Et en fait, c'est un disque qui me touche particulièrement parce que quand j'étais étudiante, j'ai étudié beaucoup à Vienne, en Autriche, et j'ai eu la chance de chanter beaucoup pour gagner ma vie dans un chœur très bon qui s'appelle Arnold Schönberg Chor. Et j'ai enregistré ce même couple d'œuvres, la messe du couronnement et les vêpres d'un confesseur, sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, qui était un chef, malheureusement, qui nous a quittés récemment, qui est un des pionniers de ce mouvement historicisant. Et ces deux œuvres qu'on associe souvent, parce que d'abord, elles ont été écrites exactement à la même époque, avec le même Mozart, très très furieux de revenir d'un voyage à Paris où il n'a pas eu le succès escompté à Paris, sa fiancée a épousé un autre homme, il est obligé de retravailler avec cet archevêque Colloredo qu'il déteste. Enfin bon, c'est vraiment une musique chargée et d'énergie et d'électricité. Et donc ça m'émeut beaucoup d'ouvrir ce nouveau chapitre à la fois avec Warner, à la scène musicale, avec l'Insula Orchestra et Accentus bien sûr dans nos bagages, avec cet album-là.
Est-ce que c'est de la musique viennoise ? Est-ce qu'il y a un côté viennois dans ce Mozart-là, Laurence Equilbé ?
Oui, alors Mozart n'habite pas encore à Vienne. Il est allé à Vienne déjà, bien sûr, mais il revient à Salzbourg. Là, justement, donc on pourrait dire plutôt une musique salzbourgeoise. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, l'archevêque Colloredo et aussi Joseph II, qui était donc l'empereur de l'époque, veulent simplifier la musique d'église. Il y a une sorte de, comment on dit, d'Aufklärung, c'est-à-dire de temps des lumières de la musique catholique, et alors ils veulent plus que ça soit trop long, alors en réponse Mozart fait débiter le texte à toute allure, ils veulent plus de timbales trompettes, c'était trop militaire, alors il en met énormément, notamment à la fin de la musique, quand il demande la paix, il fait beaucoup de bruit de guerre,
ouais.
Enfin, il y a des réponses assez humoristiques de la part de Mozart, donc je dirais que c'était plutôt son adieu à Salzbourg, en fait, cette musique-là.
Alors vous avez une passion, Laurence Equilbé, pour le répertoire classique allemand, ce que vous appelez, je crois, la génération Goethe.
Oui,
ça veut
oui.
dire quoi la Fédération Goethe ?
Bon, écoutez, c'est un poète, un des grands poètes que pratiquement tous les compositeurs de ce siècle-là, en tout cas si on parle de 1750-1850, à un moment donné, alors c'est pas exactement les dates de Goethe, mais en tout cas Goethe a été très très présent dans cette période, que ça soit Schubert, que ça soit Beethoven, enfin c'était vraiment un des poètes qui a marqué la génération des musiciens de ce temps.
Alors, cette période, donc on va dire, qui va entre la naissance de Mozart, 1756, et la mort de Beethoven, 1827, ça correspond peu ou prou au répertoire de l'orchestre Insula, mais pas du tout au répertoire du chœur Accentus.
En fait, Accentus fait beaucoup de styles classiques, mais c'est vrai qu'Accentus, au départ, il y a quelques années, Accentus maintenant à 25 ans, on s'est beaucoup intéressé au style a cappella qui est plus vivant à l'époque romantique.
Donc 19e
Oui, voilà, 19e et aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui.
20e un petit
voilà.
peu aussi, oui.
Sinon, il faut vraiment revenir très très en amont dans l'histoire de la musique. Et effectivement, dans cette époque... Alors, l'a cappella, c'est très important. C'est comme pour un sportif, il faut en faire régulièrement, comme pour un musicien, la musique de chambre. C'est vraiment une astreinte, même si le répertoire est magnifique, mais c'est technique.
Oui.
Et il faut en faire beaucoup. Donc, on a fait vraiment énormément dans les débuts d'année d'Accentus. Maintenant, ils en font toujours maintenant aussi, avec des chefs invités, notamment. Et par contre, toute cette période, c'est la grande période de ce qu'on appelle l'oratorio, ou même l'opéra. Et donc, c'est aussi très, très intéressant de parcourir ces répertoires-là.
Mais alors, justement, avec Accentus, vous avez donc fait beaucoup de 19e, 20e siècle. Vous avez fait aussi beaucoup de compositeurs contemporains, Manoury, par exemple, du Sapin aussi. Est-ce que ces deux formations, Accentus et l'Insula Orchestra, étaient réellement destinées à travailler ensemble?
Alors, vous savez que, en fait, à la naissance d'Accentus, on a fait aussi à l'époque beaucoup de projets. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes effectifs de chanteurs. Ça, je dois peut-être expliquer ça aux auditeurs.
C'est variable, en fait.
Parce qu'on a vraiment, dans les chanteurs, on a des chanteurs généralistes qui sont vraiment tout terrain, on va dire, vocalement.
Oui.
Et d'autres qui sont vraiment plus spécialisés, on peut le comprendre, avec des voix plus lyriques, un peu plus lourdes, plus amples. Et d'autres, des voix plus légères pour le répertoire baroque ou classique. Et c'est grâce à cette modulation qu'on peut faire quand on a des ensembles comme ça, indépendants, qu'on réussit à avoir des groupes très stylés. Mais dès le départ, Accentus, à l'époque, a travaillé notamment, je pensais, avec Christophe Coin, avec le Concerto Köln. On a fait des projets aussi avec un autre orchestre sur un instrument d'époque que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Académie für Alte Musik à Berlin. Voilà, donc il y a toujours eu quand même ce chemin parallèle de l'oratorio classique.
C'est avec ce Kyrie de la messe de couronnement de Mozart que débute cet album qui sort donc chez Erato. Laurent Sequilbé, c'est, on l'a dit, le fruit d'une collaboration entre les deux ensembles que vous avez créés, le chœur Accentus en 1992 et l'Insula Orchestra 20 ans plus tard en 2012. Alors Insula, ça veut dire île en latin, je me trompe pas. Vous inaugurez donc samedi sur l'île Séguin la scène musicale. Est-ce qu'on peut dire que cet orchestre Insula a été créé dans cette perspective de résidence à la scène musicale?
Oui, absolument. C'est-à-dire quand le département des Hauts-de-Seine et son président Patrick de Belgian m'ont contacté dans la perspective de la construction de ce bâtiment, ils voulaient un orchestre en résidence. Et donc c'était il y a 5 ans, enfin c'était même en 2011 je crois. Et je leur ai proposé donc de créer un orchestre qui aurait 5 années pour aller chercher sa réputation à la fois dans le département, en France et à l'étranger, d'acquérir sa notoriété, son blason. Et effectivement, c'était pour, une fois que le bâtiment serait créé, arriver en résidence, mais en étant déjà repéré, comme on dit, par le public. Et effectivement, j'avais proposé ce nom Insula, en référence, bien sûr, à Lille, mais aussi dans l'idée, c'est une région du cerveau très importante qui transforme les sensations en émotions. Et le fait d'avoir des instruments d'époque, pour moi, c'est vraiment des sensations différentes. Et qu'un orchestre soit le lieu de transformation de sensations en émotions, je trouvais ça une assez belle idée.
Mais qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir des instruments d'époque? La sonorité n'a rien à voir?
Oh, quand même, c'est proche. On voit bien quand on écoute là qu'on reconnaît quand même l'orchestre. Mais c'est-à-dire pour cette époque, enfin surtout notamment pour l'époque baroque, c'est effectivement indispensable parce que même il y a des instruments qui n'ont pas eu l'évolution vers la modernité, qui se sont même arrêtés. Mais en tout cas, nous, les instruments qu'on utilise, les cordes sont en partie en boyaux, ce qui leur donne une souplesse un petit peu différente. Elles sont peut-être moins puissantes, mais elles calligraphient mieux la musique. Et pour le style classique, c'est très important. Les archets sont pas aussi raides, donc pas aussi puissants, mais ils sont plus souples. Et donc, c'est toujours des questions de sculpter cette musique de façon légèrement différente. Ce qui est très différent aussi, c'est les cuivres qui n'ont pas de pistons et qu'on dit naturels. Donc, tout se fait avec la bouche. Et ça leur donne une sonorité un peu plus boisée et qui se mélange beaucoup mieux avec ce qu'on appelle les bois, c'est-à-dire les clarinettes, les bassons, les hautbois. Et puis les timbales sont en peau, donc un peu plus énergiques, plus frappés, avec des sons aussi moins sourds, mais moins puissants. Tout ça va dans un sens peut-être plus de l'énergie, parfois de la verdeur même, mais aussi de plus de diaphane, plus de calligraphie, donc ça donne aussi plus de légèreté.
Mais l'idée, c'est de jouer comme à l'époque, sachant évidemment qu'on n'a pas d'enregistrement.
Oui, c'est pas tant une démarche historicisante, quoi, qu'elle soit intéressante, parce qu'on se dit toujours qu'est-ce que le compositeur voulait nous dire, qu'est-ce que cette époque voulait nous dire, quelle était l'énergie de l'époque, surtout quand on pense que Beethoven se décrivait comme un compositeur électrique, par exemple. Donc, quelle électricité il voulait nous transmettre. Mais c'est plus... ça, c'est intéressant, cette démarche, évidemment, mais c'est aussi parce que les sonorités sont complètement différentes. Et que, surtout, on s'aperçoit qu'avec ces sonorités-là, ce qu'on appelle les balances, vous savez, vous, homme de radio, ce que c'est des balances, ouais, de micro, etc. C'est-à-dire, le rapport entre les uns et les autres sont complètement changés. Et par exemple, les trombones, vous voyez ce que c'est que des trombones, parfois c'est assez puissant. Des trombones modernes dans le style classique, ça écrase tout. Alors que des trombones de l'époque, on s'aperçoit qu'ils se fondent comme un rien.
Voilà. Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Laurence Equilbé, que les autres orchestres qui jouent avec des instruments contemporains ne jouent finalement qu'une forme de transposition de l'œuvre originale?
Oh, j'irai quand même pas jusque là, parce qu'il y a, heureusement, les orchestres modernes, parfois, travaillent très, très bien le style, parce qu'il y a quelque chose dont on peut parler, c'est le style d'exécution. Mmh. Donc, on peut travailler cette question et très, très bien, et du coup, arriver pratiquement à un peu un résultat similaire. Mais après, on part avec un certain handicap, parfois avec certains instruments qui sont magnifiques, ils auront beau avoir toute la connaissance du style qu'ils veulent. S'ils sont trop épais, parce que la facture a changé, ils partent avec ce handicap qu'avant, c'était pas du tout la même texture, voilà. Non. Mais c'est vrai qu'il y a certains orchestres, pour moi, qui ai fait mon éducation musicale en grande partie à Vienne, j'ai ça dans la peau et c'est ça que j'aime. Après, c'est vrai que j'aime moins Mozart sur les orchestres modernes, je vais pas me mentir à moi-même.
Mais alors, où est-ce que vous êtes allé les chercher, ces instruments anciens?
Alors écoutez, la plupart du temps c'est des copies parce que sinon ça serait beaucoup trop fragile, donc on les fait fabriquer.
Oui.
Il y a des facteurs qui maintenant maîtrisent tout à fait bien les techniques d'antan, et il y a quelques originaux encore, donc ça dépend, il y a des musiciens qui ont ça dans leur propre collection personnelle, et sinon on les fait fabriquer en copie, voilà.
Alors vous parliez de style, Laurence Equilbé, c'est quoi le style Equilbé?
Ah, mon style, écoutez, moi, j'aime bien, en tout cas, ça peut peut-être paraître pédant, mais essayer d'avoir des versions universelles. C'est-à-dire que je cherche pas, un peu comme aurait pu faire Glenn Gould, que j'admire par ailleurs, hein, mais je suis pas ce genre d'interprète à marquer de mon sceau quelque chose. D'abord, j'aime bien faire la synthèse entre tous les musiciens qui sont sur le plateau, parce que je trouve que quand on a fait 20 ans comme ça d'études musicales, forcément c'est qu'on aime la musique, forcément c'est qu'on a quelque chose à dire, donc je vais chercher ce que chacun a à dire, essayer de faire une sorte de synthèse entre tout ça, et puis ensuite essayer de me dire, cette œuvre, elle n'a pas été composée, elle est née telle qu'elle, elle est même pas difficile, un peu comme certains plasticiens, quand vous avez des Anish Kapoor ou des John McCracken, où on voit leurs œuvres on a l'impression qu'elles sont nées telles quelles. Voilà. C'est un peu cette sensation d'espèce de jaillissement naturel que j'essaie de faire surgir pour le public. Voilà. Mais ça, c'est tout un travail.
Le chœur Accentus et l'Insula Orchestra sous la baguette de Laurence Equilbé pour ce Sanctus de la messe de couronnement de Wolfgang Amadeus Mozart. Un chœur et un orchestre, Laurence Equilbé, ça se dirige exactement de la même façon?
Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que le chant, c'est un peu comme les vents. C'est des gens qui respirent beaucoup. Il faut avoir un geste qui est peut-être un peu moins tranché qu'avec des instruments à percussion comme les percussions ou bien le piano, par exemple. Et les cordes, où là, toute la baguette est très intéressante pour les cordes parce que c'est en fait l'imitation de l'archet. Hein. Oui. Et donc, c'est pas tout à fait le même volute. Et avec le chant, vous devez toujours prendre en compte la question de la respiration.
Mais alors là, vous allez diriger ce samedi les deux en même temps.
Oui, alors il y a un programme surprise. Oui. Donc, mais il y a des moments d'orchestre seul, il y a des moments avec piano, il y a des moments avec chœur et orchestre. Voilà, il y a donc un peu tout.
Alors, et les solistes, hein, ils sont quatre hein, sur ce disque qui sort chez Erato. Il y a la soprano Sandrine Piau qui sera d'ailleurs avec vous ce samedi à la scène musicale. Il y en a d'autres également. Comment est-ce que vous travaillez avec ces solistes? Est-ce que le rapport que vous avez avec eux et avec les musiciens de l'orchestre sont de même nature?
Non, pas tout à fait, parce que d'abord avec les solistes que je choisis souvent avec mon délégué artistique Josquin Macarès, on les voit en amont, on fait des séances personnelles, donc c'est un rapport très
sans musicien.
Oui, c'est ça, très très personnel, avec parfois, enfin il y a un pianiste en général, et parfois même très longtemps à l'avance pour prendre du recul sur l'interprétation qu'on souhaite ensemble, etc. Et donc c'est une relation plus personnelle, tandis que effectivement l'orchestre, même si je connais tous les musiciens individuellement, mais c'est plutôt une gestion de groupe et on s'adresse à je sais pas, 50 personnes à la fois, donc c'est pas du tout le même rapport.
Alors vous êtes, Laurence Equilbé, une des rares femmes chef d'orchestre, hein. Selon la SACD en 2016, il y en avait 21 en France pour 586 hommes. Le monde de la musique est toujours aussi misogyne?
Il y en a 21 programmées, parce qu'il y en a beaucoup plus. Ah. Le vrai problème, c'est qu'elles ne sont pas programmées, les femmes en général. Pas seulement d'ailleurs les chefs d'orchestre, mais aussi les instrumentistes, les instrumentistes qui sont peut-être 15% à être programmées, alors qu'elles sont tout à fait paritaires dans les classes et dans les sorties de concours. Les metteuses en scène, notamment à l'opéra, sont très 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 peu programmées. Et alors il y a beaucoup beaucoup de femmes à la porte, et qui sont, je ne sais pas si elles sont bâillonnées, voilées ou quoi, mais en tout cas elles s'évaporent après les études. Et donc effectivement avec la SACD notamment, nous sommes beaucoup à nous insurger contre cette inégalité, sur cette injustice.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Et nous demandons, enfin la SACD a demandé des choses très précises, d'ailleurs qui ont été acceptées par le ministère, mais toujours pas mises en œuvre, c'est-à-dire de faire des objectifs chiffrés pendant 3 années.
Donc des quotas.
Des quotas, oui, disons plus 5% dans tous les corps de métier artistiques, dans la programmation et dans les directions de lieux, pendant 3 ans, pour désenquister le problème, pour essayer de trouver une forme de naturel de programmation après. Mais et ils ont demandé aussi quelque chose de très intéressant, c'est que les établissements culturels eux-mêmes, notamment ceux qui sont très subventionnés, fournissent eux-mêmes leurs chiffres de mixité pour que eux-mêmes voient qu'il y a un énorme problème. Et je pense que le spectacle vivant porte en lui, je crois, sa propre dégénérescence par son manque d'ouverture.
On va marquer une courte pause, Laurence Equilbé, et on va reparler de la scène musicale avec vous et avec son directeur général Olivier Habert, qui va nous rejoindre juste après le flash, et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles? Jean-François Cadet.
Toujours avec la chef d'orchestre Laurence Equilbé qui dirige le chœur Accentus et l'Insula Orchestra que l'on entend actuellement dans le Gloria de la messe de couronnement de Mozart, extrait de l'album qui vient de sortir sous le label Erato. Laurence Equilbé qui aura également la charge du concert inaugural de la scène musicale samedi prochain à Boulogne-Billancourt. Mozart sera au programme?
Ah, il y aura du Mozart, absolument. Alors le programme est surprise parce que on veut montrer un peu l'ADN de ce projet, et donc déjà montré qu'il y a quelque chose d'un peu différent et le public est amené, avec des, grâce à des énigmes, à découvrir le programme.
Ouh là là, donc on n'en saura pas plus
Il y a du Mozart en tout
aujourd'hui.
Cas,
aujourd'hui, il y a du Mozart. Bon,
ouais.
Bonjour Olivier Habert.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la scène musicale. Alors samedi soir, il y aura donc Laurence Equilbé et ses orchestres, sans oublier évidemment les solistes qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis il y aura aussi un live de The Avenger et The Shoes. Mais le très gros coup de la semaine, évidemment, c'est l'avenue, la veille de Bob Dylan, donc vendredi soir. Bon, c'était une gageure de le faire venir.
Écoutez, je pense que déjà le gros coup, c'était surtout, bien entendu, d'avoir Bob Dylan, mais surtout de pouvoir présenter en quelques jours toute la diversité de ce que présentera pour les années à venir la scène musicale. C'est un lieu où on recevra de nombreux artistes de variété internationaux ou français. C'est un lieu où, évidemment, on aura un orchestre en résidence, personne de d'Insula Orchestra et de Laurence Equilbé, mais également des artistes qui viendront, des pianistes, des solistes, des quatuors à cordes. On va avoir vraiment tout un panel de musique classique qu'on va pouvoir retrouver, et puis également du jazz, de l'électro. Donc oui, l'électro aussi, et d'avoir de l'électro dès le samedi, c'était important pour nous de montrer qu'on allait avoir beaucoup de diversité, et ça dès la première semaine.
Et alors Bob Dylan? Parce que vous m'avez pas répondu, là.
J'ai pas répondu.
Vous lui avez fait un pont d'or pour qu'il vienne, parce qu'attendez, il a fallu que les Nobel se mettent à genoux pour qu'il vienne chercher son prix. Comment vous avez fait, vous?
Écoutez, on a eu, alors est-ce que c'est de la chance, ou en tout cas, est-ce qu'il a été sensible à ce projet? Je pense que c'est un petit peu des deux. Il en faut toujours un petit peu des deux, parce que bien entendu, il faut que l'artiste soit en tournée à ce moment-là, il faut qu'il ait la disponibilité à ce moment-là, donc ça c'est pour la partie chance. Et puis je pense qu'il a dû être sensible, effectivement, à pouvoir être le premier sur la scène. Et ça sera pour toujours, donc ça sera Bob Dylan le premier sur la scène de la grande scène, puisque c'est le nom qu'on a donné à la grande salle de 4000 à 6000 places, et ça sera en configuration 4000 places assises pour Bob Dylan ce vendredi.
Alors on va revenir justement sur le bâtiment dans un instant, mais d'abord cette scène musicale, c'est un lieu et pas n'importe lequel, hein, Olivier Habert, l'île Seguin au milieu de la Seine, un lieu chargé d'histoire, hein, puisque c'est là qu'étaient installées les usines Renault de Boulogne-Billancourt, lieu mythique s'il en est, et de l'aventure automobile et des grandes mobilisations sociales. Est-ce que c'est une histoire dont la scène musicale peut s'enorgueillir au point de la faire revivre également musicalement parlant?
Alors je ne sais pas s'il y aura un lien direct entre le passé et l'histoire industrielle de ce site et la nouvelle page qu'on est en train d'écrire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce lieu parle à tout le monde. Il n'est pas anodin dans l'histoire francilienne en tout cas. Et qu'aujourd'hui, on est quelque part la première pierre d'un nouveau projet, puisque alors, pierre majeure bien entendu, mais on sait que le reste de l'île va être également aménagé, que sur l'autre pointe de l'île, on va y retrouver une fondation d'art contemporain, on va retrouver des activités autour de la culture et de la musique également sur la partie centrale, et du divertissement, puisqu'il y aura des cinémas en face de cette fondation. Ça veut dire que cette île va devenir une île de destination autour du monde de la culture, du monde de l'art, mais également du divertissement. Donc quelque part, on va, je sais pas si on va changer l'histoire, mais en tout cas faire évoluer, faire avancer, passer de cette phase industrielle à cette phase de jeu, service, divertissement autour de la culture et de la musique.
Dans sa grande diversité. Alors le bâtiment est implanté sur la pointe aval de l'île, un terrain de 324 mètres de long, ce qui représente peu ou prou l'équivalent de la Tour Eiffel, un lieu de vie et de spectacle, donc de quelque 36 500 mètres carrés, 170 millions d'euros investis pour la construction, un jardin de 7 410 mètres carrés, et une architecture signée du japonais Shigeru Ban et du français Jean de Gattine, qui a servi de guide à notre reporter Antoine Lalanne Desmé.
Jean de Gattine, on est au-dessus de la Seine, sur une passerelle qui mène à la Seine musicale, ce nouvel espace artistique en Île-de-France. Grand bâtiment en long, pas très haut, 2-3 étages, et tout au bout, une sorte d'œuf, c'est là où il y a l'auditorium.
Il est traité un peu comme la proue d'un navire, et cet œuf dont vous parlez, qui abrite l'auditorium, est accompagné d'une grande voile sur laquelle se positionnent des panneaux photovoltaïques. Et cette voile a la particularité de tourner avec la course du soleil.
Est-ce qu'on peut aller faire un tour dans l'auditorium?
Oui.
Allons-y, je vous suis. Donc on arrive sur l'île.
Vous découvrez un grand parvis et une porte monumentale. Là, on entre dans la grande rue intérieure. Et c'est de là que se distribue l'ensemble des différentes activités, la grande salle, l'auditorium,
Alors à notre gauche, un vestiaire, un bar, il y a quelques pylônes au milieu de la rue, et c'est très mat les couleurs.
C'est doux. Comme vous remarquez, cette grande rue est très éclairée. On n'est pas dans un endroit fermé.
On alterne entre grandes baies vitrées et murs donc de béton, un gris très clair.
Voilà.
Alors l'auditorium, c'est par où ?
Alors l'auditorium, l'entrée s'opère par des grands escalators.
C'est étonnant parce qu'on était dans cette grande rue intérieure et tout d'un coup, l'escalier pour monter à l'auditorium se réduit. On a l'impression d'arriver dans une nasse. Donc on entre dans le vestibule et on rentre comme dans une bulle en fait.
Et là, on a une vue en transparence de la voile, la charpente en bois recouverte de verre qui forme une coque.
Alors un nouvel escalier maintenant pour... En fait, on monte vers cet auditorium.
Et comme vous l'avez remarqué, depuis l'extérieur, c'est une partie émergente du bâtiment. On va entrer dans l'auditorium lui-même. Oui, donc l'auditorium est une configuration vignoble. Vous avez la scène qui est donc centrale et autour de laquelle sont placés tous les sièges des spectateurs et donne un côté chaleureux qui est renforcé par l'utilisation, comme vous le voyez, du bois, notamment du chêne sur toutes les parois. Un bois qu'on a voulu plutôt clair et qui rentre en contraste avec le tissu rouge des sièges.
D'ailleurs, ça sent le bois, on sent qu'il y a du bois neuf. 1100 places, pourtant ça paraît petit. Le spectateur le plus loin, il est à combien de mètres de la scène ?
Alors il est à 19 mètres je crois.
Et un piano est en train d'être amené sur la scène.
Voilà.
On arrive au terme de cette petite visite, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà, reportage d'Antoine Alain Desmet. Olivier Haber, c'est bon, vous êtes en train d'essuyer les plâtres ?
Oui, on va. Je ne sais pas si on essuiera les plâtres. J'ai le sentiment qu'on est très près. Alors parfois c'est inquiétant. On a eu l'occasion de faire des tests acoustiques, de faire des tests en configuration pour pouvoir faire de l'accueil des publics aussi. J'ose dire que tout s'est bien passé. Évidemment, il y a mille petites choses à régler et on a encore quelques heures pour le faire avant effectivement les premiers événements du week-end. Mais d'ores et déjà, dès hier soir, un concert de la Maîtrise des Hauts-de-Seine dans l'auditorium. Et puis tout au fil de la semaine, différents événements qui permettront de découvrir d'autres lieux. Parce qu'il n'y a pas que cette grande scène et l'auditorium, on a aussi les studios dont on parlait tout à l'heure. Et puis cette rue intérieure, donc il faut les faire vivre aussi, ça fait partie de l'expérience globale.
Alors Laurence Equilbé, ce bâtiment c'est aussi votre nouvelle maison, et puisqu'on l'a dit, l'Insula Orchestra y est en résidence, j'imagine que vous avez été particulièrement attentive à l'auditorium. C'est très important évidemment, l'acoustique, verdict ?
Ah oui, c'est très très important. On a fait beaucoup de tests. Il y a aussi des tests avec...
En conditions réelles, les tests ?
Ah oui, avec, il y a aussi des tests avec la fosse, qui est une fosse d'orchestre qui va nous permettre aussi des formes scéniques d'un genre un peu nouveau, très très innovant. Et il y a eu des pianos seuls, il y a eu de la voix. J'ai déjà justement répété la création de Haydn avec la Fora d'Elsbaus, avec beaucoup de force soliste et chœur et orchestre, et cette fameuse fosse. Et bon, il y a eu plein de tests, et après ça, il y a eu des bilans, et l'acousticien, monsieur Toyota, donc de ce cabinet Nagata, et d'autres acousticiens ont conclu certaines petites démarches à faire. On a enlevé un peu d'absorbant. Enfin, l'acoustique promet vraiment d'être absolument magnifique. Et Dieu sait si c'est important pour essayer de porter une interprétation au plus haut niveau, parce que quand le son nous inspire et quand le son nous permet aussi des risques, c'est extraordinaire.
C'est important l'architecture d'une salle. Alors, je ne sais pas, c'est pas évident de répondre à cette question, Laurence Equilbé, mais comment est-ce qu'on appréhende une salle quand on est comme ça au pupitre, salle vide derrière vous ou au contraire salle pleine ?
Écoutez, nous...
Il y a un ressenti ?
Oui, bien sûr, on travaille beaucoup pour que la salle soit pleine, parce que
nous-mêmes,
c'est pas tant pour des questions économiques, quoi qu'on peut les comprendre, mais plutôt pour des questions de partage, de transmission. Enfin, on essaye de restituer ses œuvres aussi pour les partager avec le public. Et donc, effectivement, d'ailleurs, il y a beaucoup maintenant de salles un peu en vignoble, comme cet auditorium. Oui. Donc, le public entoure les artistes. Donc, il y a souvent des gens qui adorent être notamment face au chef ou voilà, qui aiment bien regarder un peu comment ça se passe. Et c'est très à la fois intime, mais là, ce que j'aime beaucoup dans cette salle, c'est que le public est quand même dans sa zone, il peut être dans son intimité aussi.
Oui, parce que là, on a quand même l'impression que on est vraiment à l'aplomb hein, de l'orchestre à certains endroits de la salle.
Écoutez, c'est quand même une pente douce et les balcons sont très harmonieux. Et ce bois blond, enfin, il y a beaucoup de... C'est très, très zen, je trouve. C'est très, très apaisant comme salle.
Oui, mais vous, quand vous dirigez, vous pensez au public? Vous pensez aux réactions? Ou bien vous êtes, au contraire, dans votre bulle avec vos musiciens et vos chanteurs?
Non, je pense au public, mais surtout, je l'entends. Oui. Et surtout, le niveau d'écoute, ça, on le ressent tout de suite. La concentration d'écoute, on le ressent tout de suite.
Alors, cet auditorium, Olivier Habert, il a vocation donc à accueillir vraiment tous les types de musique non amplifié, donc ça va, si j'ai bien compris, du quatuor à cordes à l'orchestre symphonique en passant par le grand chœur et puis la voix seule aussi, on peut y avoir des récitals également dans cette salle et on peut moduler la salle comme ça à l'envie.
Alors il pourrait y avoir, et puis il y aura également de la musique amplifiée, alors légèrement parfois, plus de manière plus marquée sur d'autres, légèrement on va parler de jazz, et dès le 22 mai on va recevoir un trio jazz dans l'auditorium, avec Jean-Luc Ponty, Lagraine et Eastwood. Ouais. Et puis on aura également, et au risque de surprendre un petit peu, dès la rentrée, des premières dates électro dans l'auditorium. Donc là forcément, il va falloir un petit peu sonoriser.
Oui, parce que c'est pas tout à fait la même chose au point de vue acoustique, sans être un spécialiste.
Ah non, absolument pas. Et c'est ce que nous offre cet auditorium, qui est effectivement un écrin absolument somptueux et qui ressemble plus à une boîte à bijoux dans laquelle on a l'impression qu'on ne peut, une fois absolument rien toucher, en fait, il y a un plafond technique au-dessus, on peut faire des choses, on peut accrocher du son, on peut, il a une vraie modularité aussi.
La voix de Sandrine Pio dans VMDN sur RFI avec aujourd'hui Laurence Equilbé qui dirige le chœur Accentus et l'Insula Orchestra, orchestre en résidence à la scène musicale qui sera inaugurée le week-end prochain, et le directeur général de la dite scène musicale, Olivier Habert. Alors le bâtiment, il compte en tête de proue, hein, en dessous de l'esplanade, 1350 mètres carrés d'installation pour héberger de manière permanente l'Insula Orchestra qui s'est produit à Vienne, Salzbourg, Bâle, Londres et j'en passe. Maintenant, en résidence, être arrimé à un lieu, Laurence Equilbé, c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça change?
Pour un artiste, c'est essentiel, je dirais même. Moi, j'ai déjà des résidences, j'étais beaucoup en compagnonnage, je le suis encore d'ailleurs avec la Philharmonie de Paris, qui m'a beaucoup soutenu depuis le début de ma carrière. Je suis par exemple artiste associé au Grand Théâtre de Provence, j'y vais régulièrement, j'ai noué une relation avec le public très intéressante. Accentus est en résidence depuis quelques années à l'Opéra de Rouen, Normandie, et c'est pareil, on à la fois avec le public aussi et aussi pour les éducations culturelle et pédagogique, c'est très important. Là, la scène musicale, c'est encore différent parce que non seulement on peut vraiment s'autoprogrammer, c'est-à-dire on peut prendre nos propres risques artistiques, ce que je crois très important pour un projet, et puis on a aussi la chance d'avoir des dates qu'on peut inviter des ensembles, c'est-à-dire créer une synergie particulière avec des ensembles que vous aimez bien, des artistes que vous défendez notamment, et toujours dans l'idée de cette prise de risque éventuelle, hein, enfin d'afficher des valeurs aussi, de défendre vos valeurs à la fois artistiques et humaines.
Et alors plus concrètement, Quelles sont les grandes lignes de ce projet artistique?
Alors, par exemple, si on développe un peu les 3 mois qui vont arriver, c'est à la fois des concerts. On a aussi créé un club pour les jeunes qui s'appelle Insoulab pour les 17-26 ans. Donc, vous avez aussi des concerts flash, c'est-à-dire très courts, des concerts un peu sur le mode des sets de jazz d'une petite heure. On a ces fameuses créations scéniques, notamment on va faire la création de Haydn avec ce collectif catalan, la Fora dels Baus, qui est vraiment absolument extraordinaire, avec beaucoup de choses innovantes et très technologiques.
Mais vous êtes très très branché aux nouvelles technologies.
Ah oui, moi disons que j'aime l'innovation, ça c'est depuis que je suis née, c'est comme ça. Et par exemple, on va faire la grande messe en ut de Mozart avec la réalisatrice Pascal Ferrand, qui va capter le concert et le projeter en direct. Donc j'aime aussi beaucoup la symbiose entre les arts.
Alors Olivier Habert, cette notion de transmission qu'évoquait à l'instant Laurent Sekilbet, elle est aussi très très présente, parce que vous avez, j'imagine, déjà en tête des projets avec le jeune public, avec des publics peut-être un peu plus difficiles, je ne sais pas, je pense à celui des hôpitaux, des maisons de retraite, et puis il y a des académies aussi, l'académie Jarouski qui aura aussi pignon sur rue au sein de votre bâtiment.
Absolument, absolument. Philippe Jarouski a décidé d'abord de créer une académie destinée aux enfants plutôt en difficulté et à leur réintégration via la musique, et c'est au sein de la scène musicale que cette académie Jarouski va s'installer. Au-delà de cette académie, Philippe Jarouski du coup va s'inscrire globalement dans ce projet. On va avoir dès le mois de mai un premier concert autour de sa personne. On est ravis de pouvoir l'accueillir. Concernant les publics, bien entendu, on a la volonté de pouvoir s'adresser à tous les publics avec des actions, comme vous l'avez signalé, ciblés sur certains d'entre eux qui nécessitent, je pense, qu'on ait une attention plus particulière. Alors on est dans les Hauts-de-Seine, c'est un projet d'ailleurs du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il est logique déjà dans un premier temps qu'on puisse créer ce lien nécessaire avec les mairies autour de nous, les conservatoires autour de nous, les maisons de la culture autour de nous, pour montrer qu'on s'inscrit dans un projet global et que les publics peuvent s'y retrouver aussi chez nous.
Des gamins de l'opéra Carmen de Bizet par la maîtrise des Hauts-de-Seine, qui prendra aussi résidence à la scène musicale, Olivier Habert.
Exactement, ça fait partie de cet écosystème autour de la scène musicale, entre évidemment l'orchestre en résidence Insula Orchestra, la maîtrise des Hauts-de-Seine et puis l'académie Philippe Jarouski, autour des programmations classiques des deux salles.
Voilà, la maîtrise des Hauts-de-Seine, c'est une sorte d'école des chœurs d'enfants de l'opéra de Paris.
Oui, et puis qu'on retrouve aussi sur de la programmation diverses et variées, puisqu'on les retrouve aussi, je crois, sur les choristes en ce moment à l'affiche aux Folies Bergères. Donc effectivement, une maîtrise de très très grande qualité.
On peut imaginer, Laurent Sekilbet, une coopération justement entre les différents ensembles en résidence.
On a déjà fait plusieurs projets ensemble avec Gaël Darchen, que j'aime beaucoup, et cette maîtrise formidable. Et là, le prochain projet, c'est notamment un projet russe avec une œuvre de Rodion Chedrin, qui est une sorte de post-orthodoxe, comme ça, un compositeur magnifique. Et il y a des petits solistes de la maîtrise qui participent à cette œuvre qui s'appelle L'Ange scellé, qui sera d'ailleurs donnée à la scène musicale au mois de mai.
Alors évidemment, il y a aussi un deuxième lieu très important en ce qui concerne la musique en région parisienne, c'est la Philharmonie de Paris, qui se trouve à l'est, donc à l'autre extrémité de Paris. Vous vous inscrivez quoi, en concurrence, en complémentarité avec la Philharmonie, Olivier Habert?
Non, complémentarité, je pense. On est d'abord, effectivement, comme vous le soulignez, on n'est pas du tout situé au même endroit. Je pense qu'il y a des gens qui seront ravis de pouvoir continuer, évidemment. Et puis, je crois que la Philharmonie fonctionne très bien. Elle a pleinement réussi son ouverture et son installation aujourd'hui dans le paysage des grands lieux de la scène classique. Par contre, je pense que côté ouest, il manquait une salle. Il manquait une salle d'envergure. Il manquait une salle qui puisse apporter aussi cette qualité. Et la scène musicale est la bienvenue en complémentarité.
Et vous disiez tout à l'heure, Laurence Equilbet, que vous avez toujours une relation très forte avec la Philharmonie, avec Laurent Bayle en particulier. Le projet Demos, qui vise justement à favoriser l'accès à la musique classique et à la pratique instrumentale pour les enfants de banlieue, on pourrait aussi, là aussi, collaborer autour de ce projet Demos entre la Philharmonie et...
D'ailleurs, il y a un orchestre Demos des Hauts-de-Seine. Enfin, moi, je trouve le projet, effectivement, de la Philharmonie absolument exemplaire. Et effectivement, comme disait Olivier Haber, c'est l'idée d'être en complémentarité, d'avoir une dimension ampliative, c'est-à-dire qui complète cette offre du Grand Paris. Et avec le département des Hauts-de-Seine, on est très attentif à ça depuis le départ. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche aussi des angles, notamment, je parlais de la jeunesse tout à l'heure. On va traiter, évidemment, tous les publics, les familles et tous les publics, mais effectivement cette question des jeunes gens nous préoccupe beaucoup, parce que je pense qu'au niveau de l'Île-de-France, ça peut être absolument amélioré. Et puis des projets scéniques que eux ne peuvent pas forcément faire, casser aussi certains formats, la proximité avec la grande scène qui est aussi unique. Donc on se place vraiment en grande complémentarité avec la Philharmonie, qui est quand même un établissement culturel complètement public, c'est absolument pas comparable sur la forme, parce que nous sommes un partenariat public-privé.
Oui, alors justement, l'exploitation artistique de cet endroit a été confiée à la société STS Événements, Olivier Haber, dont le principal actionnaire est le groupe TF1. La programmation a été confiée à l'ancien directeur du Châtelet, Jean-Luc Choplin. Alors le mot d'ordre, c'est quoi ? Diversité, on l'a compris hein, depuis le début de cette émission. Qualité, j'imagine que vous n'allez pas me dire le contraire. Rentabilité aussi ?
Alors, Jean-Luc vous dirait tout de suite sophistiqué et populaire, parce que c'est son credo, oui. et ça regroupe, je pense, et quelque part ça exprime bien ce qu'on va y proposer. Rentabilité, oui, à partir du moment où on est une société, alors pour le coup, pour STS 100% privée, il va de soi qu'on n'est pas là pour perdre de l'argent, nous ne sommes pas subventionnés, donc oui, rentabilité, mais c'est rentabilité aussi au service du contenu. Ça va dans les deux sens, en fait. Le contenu doit servir à la rentabilité, et la rentabilité doit servir à proposer d'autres choses, à aller plus loin, à prendre des risques en termes de programmation. Et puis, comme on le soulignait tout à l'heure aussi, à aller toucher des publics différents.
Mais alors, offrir des spectacles exigeants, mais sans subvention, on fait comment ? C'est quoi le modèle économique ?
Alors, c'est pas de la magie.
On a
plusieurs cordes à notre arc. On a d'abord deux salles.
Oui. Modulables, on le disait. Donc
modulables. On a aussi une manière d'aborder le métier qui est assez original, puisqu'on ne fait pas que de l'accueil de spectacles. Alors oui, effectivement, on loue notre salle. On le loue aujourd'hui sur Bob Dylan, sur évidemment en fin d'année Michel Sardou qui est déjà installé. Sur l'année prochaine, on a déjà beaucoup de dates qui sont en programmation. Mais on fait aussi de la coproduction, de la co-réalisation. C'est quelque part cet ensemble d'activités qui est vertueux, qui fait qu'on va pouvoir d'abord équilibrer les comptes et puis demain être bénéficiaire et pouvoir proposer encore plus de choses.
Les tarifs ?
Les tarifs sont c'est vraiment alors les tarifs de location de la salle.
De location de la salle. Voilà, moi j'ai envie d'aller assister à un concert chez vous. Bah combien est-ce qu'il faut que je mette d'argent de côté pour y aller ?
Alors on n'est pas un théâtre au sens où on n'a pas une politique tarifaire unique à l'année ou globalement très 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 proche. Ça dépend quand même beaucoup de ce qu'on y propose. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de positionnement, on a, et pour l'instant pour les premiers spectacles où il y a un comparatif par rapport à d'autres salles qui peut être fait, on est plutôt pas plus cher déjà, ça c'est sûr, pas plus cher. On n'est pas non plus à vouloir offrir les places, et comme vous le dites, on est une société privée avec un objectif de rentabilité, ce qui nous oblige à un certain tarif, mais nous ne sommes pas plus chers qu'ailleurs, ça c'est une évidence.
Ne donnez pas de chiffres.
Moi, je peux vous en donner, si vous voulez.
je pense que c'est peut-être plus facile, effectivement, sur l'auditorium, parce qu'effectivement, il y a une politique tarifaire sur l'année. Sur la grande scène, notamment, c'est très compliqué, parce qu'un Bob Dylan n'est pas au même prix qu'un Michel Sardou, qui n'est pas au même prix qu'un Herbie Hancock. Ce sont trois choses différentes. Herbie Hancock, juste pour signaler, effectivement, on va le proposer quasiment 25 ou 30% moins cher que ce qui avait pu être fait les années précédentes.
Pour l'auditorium, Laurence Equilbet.
Donc, moi, je suis côté public, côté département, et donc, on a une politique tarifaire, effectivement, de service public, ce qui n'est pas tout à fait les mêmes. enjeux. Donc il y a des places qui commencent à 5 euros, ça va jusqu'à 35 pour les concerts, et puis ensuite ça peut aller jusqu'à 60 en première catégorie pour les projets scéniques, mais vous aurez toujours des tarifs à 10 euros quand même pour ces projets scéniques. Donc il y a une fourchette assez large, je pense qu'il y en a pour tous les porte-monnaies.
Merci beaucoup Laurence Aquilbé et Olivier Haber d'être venus nous voir. On suivra évidemment sur RFI l'inauguration de la scène musicale tout au long de la semaine. Et puis Laurence Aquilbé, je rappelle donc votre CD de la messe de couronnement de Mozart avec le chœur Exentus et l'Itzula Orchestra, avec également les Vêpres solennelles du confesseur toujours de Mozart, disponible chez Erato. Demain on part à la Comédie Française avec Bruno Raffaelli, Laurence Stocker et Jérémy Lopez pour la résistible attention d'Arturo Oui de Bertolt Brecht, mise en scène de Katharina Thalbach. Et vous m'en direz des nouvelles.